Métaphysique Zeta, 23 avril 1985.
Dame du Pré-Saint-Rosaire, Saint-Jean.
Y a-t-il des questions? La résurrection entre Dieu, Lousia s'est illuminée. On était resté au chapitre 8. On avait vu. On avait vu 7. On avait vu 7. Longuement. Donc je reprends, je continue avec 8. Du reste, il y a une partie qui est commune. On va la suivre. Il s'agit de terminer. Mais puisque ce qui est engendré l'est par quelque chose, j'entends par là ce qui est principe de la génération. Et à partir de quelque chose, soit non pas la privation mais la matière. En effet, la manière dont nous disons cela a déjà été définie. Et devient quelque chose. C'est-à-dire une sphère ou un cercle ou quelque chose pris au hasard. Eh bien, de même qu'on ne réalise pas le sujet, l'airain, de même on ne réalise pas la sphère, si ce n'est par accident, puisque la sphère d'airain est une sphère et que c'est celle-là qu'on réalise. En effet, réaliser un ceci, un todéti, c'est réaliser un ceci à partir d'un substrat pris d'une façon absolue. Je dis que rendre rond les reins, ce n'est pas réaliser la rondeur ou la sphère, mais c'est autre chose, quelque chose comme réaliser cette idée dans une autre chose. Et c'est l'application. Qu'est-ce qui est réalisé? C'est l'union de la forme et de la matière. C'est ni la matière, ni la forme. Mais ça, car ça doit montrer. Ça va de soi, du reste, hein. Quand vous réalisez une statue, quand vous réalisez une icône, vous ne réalisez pas la matière, vous ne réalisez pas la forme, puisque vous l'avez dans votre tête, ou elle est dans le modèle. Vous réalisez l'application des deux. Mais c'est autre chose, quelque chose comme réaliser cette idée dans une autre chose. Si en effet on réalisait quelque chose, on réalise quelque chose, il faut pouvoir le faire à partir de quelque autre chose, puisque nous avons posé cela comme principe. Par exemple, réaliser une sphère d'airain, cela se comprend en ce sens qu'on réalise à partir de quelque chose qui est l'airain, un ceci qui est une sphère. Ça c'est très facile à comprendre. Si donc, mais voyez, c'est l'analyse du monde physique, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, l'analyse du monde physique, l'analyse de l'œuvre, de la réalisation, dans une lumière métaphysique. C'est pour ça que quand vous regardez uniquement d'un point de vue philologique, Aristote, vous n'y comprenez rien du tout. Parce que vous dites, mais c'est la reprise de tout, le monde, de tout ce qui a été donné en physique. C'est la reprise. Mais non, c'est une autre lumière, puisqu'on cherche ce qui est premier dans l'ordre de l'être. On cherche ce qui est premier dans l'ordre de l'être et on montre que dans le devenir, il n'y a pas de premier dans l'ordre de l'être. Où est la substance dans la sphère des reins? Ça, c'est très amusant, c'est à comprendre. Exactement comme dans le pain. Aristote aurait pu prendre le pain. S'il avait été chrétien, il aurait pris le pain. Et le pain de Paris. Il aurait dit... Qu'est-ce qui est réalisé? Est-ce que c'est la farine? Est-ce que c'est l'idée de pain? Quelle est la substance du pain? Est-ce qu'il y a une substance de pain? Il n'y a pas de substance de pain. Et vous parlez pourtant de la substance du pain. En théologien, ce n'est pas la substance du pain. Alors quand on dit que la transubstantiation, ça relève d'Aristote, mais pas du tout. Ça ne relève pas du tout d'Aristote, parce que le mot substance est pris dans un sens totalement différent. N'est pas pris dans un sens d'Aristote, il est pris dans le sens commun. La substance du pain, c'est quoi? C'est la matière avec laquelle le pain était fait. Ça, vous dites pas d'orange, pas de blé, pas de sel. Vous dites un pain entier, du pain qui est vraiment du pain. On voudrait un pain fantaisie. Alors, on sait très bien ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est ça qui est derrière. Parce que c'est toujours l'interrogation, où est la substance ? Est-ce que l'artiste réalise une substance ? Non. Il ne peut pas réaliser une substance. Mais ce qui vous montre bien que le beau n'est pas au niveau de l'être. Le beau est au niveau de la forme. Si donc on réalise aussi la substance, si donc on réalise aussi le substrat lui-même dont nous avons parlé, il est clair qu'on le fera de la même manière et que les générations s'étendront ainsi à l'infini. Il est alors manifeste que l'idée, ou quel que soit le nom qu'il faille nommer, donner à la forme, morphée, présente dans le sensible, n'est pas sujette au devenir, et que d'elle, il n'y a pas de génération. Cela étant aussi valable pour l'acuité, en effet, il s'agit là de ce qui est réalisé dans un autre, soit par l'art, soit par la nature, soit par un pouvoir. Vous ne réalisez pas la forme, parce que la forme est au point de départ. Vous réalisez le composé. Ce que vous faites, c'est l'œuvre, et l'œuvre est composée. C'est l'idée dans une matière nouvelle, dans une autre matière. Vous partez du cercle d'airain et vous voulez réaliser un cercle de bois, si vous êtes menuisier. Et vous réalisez un cercle de bois. Qu'est-ce que vous faites ? L'idée du cercle d'airain, vous l'avez à partir du cercle d'airain et vous l'appliquez au bois. Ce qui est produit, c'est la réalité existante d'une sphère d'airain, car il y a réalisation de celle-ci à partir d'airain ou de sphère. En effet, la réalisation, c'est l'idée informant un ceci. C'est l'eidos qui détermine un ceci, un substrat. C'est une sphère d'airain. S'il y avait génération de la sphère prise d'une façon absolue, cela devrait se faire à partir de quelque chose, car il faudra toujours que la chose produite soit divisible et soit d'un côté un ceci et de l'autre un cela. Je veux dire qu'elle soit d'une part matière, d'autre part forme. L'analyse et la composition. Si à la vérité, une sphère est la figure dont tous les points sont équidistants au centre, alors on distinguera en elle, d'une part, ce dans quoi ce qui est se trouve, d'autre part, ce qui est dans cette chose, enfin ce qui est engendré, pris en sa totalité, comme dans le cas de la sphère des reins. Il est certes bien manifeste à partir de ce que nous avons dit que ce qui est appelé idée, eidos, ou substance, n'est pas engendré, mais que c'est le tout qui tient son nom de cette idée qui est engendrée, et que dans tout ce qui est engendré se trouve de la matière, et qu'il y a en lui d'un côté un ceci, de l'autre un cela. Ce qui est engendré, c'est toujours un composé. Donc, vous pouvez voir d'une part la forme, d'autre part la matière. Dans tout composé engendré, vous pouvez analyser matière et forme. Mais où est la substance ? Comme ça va très loin, ça. Parce que c'est intéressant à bien saisir. Hein, c'est intéressant à bien saisir. Parce que je vous ai déjà dit la petite erreur de Gilson. J'y reviens tout le temps parce qu'il faut bien saisir ça. Oui.
Des idées innées.
Ah non, on ne peut pas dire ça. Il ne parle pas d'idées innées. Il n'a jamais dit idées innées. Il dit eidos.
Oui, puisqu'il dit que ce n'est pas engendré, les idées ne sont pas engendrées.
Oui, ce n'est pas engendré.
Oui, est-ce qu'on ne peut pas comprendre donc,
les idées que vous avez, est-ce qu'elles sont engendrées? Est-ce qu'elles sont engendrées, vos idées?
Je ne sais pas ce qu'est.
Elles sont produites en vous. Elles sont produites, elles ne sont pas engendrées.
Engendrées ou produites, non, c'est pas.
Non, c'est pas la même chose. Parce que, vous voyez, engendrer veut dire une réalité qui se tient et qui est nouvelle. Tandis que là, il s'agit d'une forme intentionnelle. C'est la confusion qu'a fait Descartes. Oui. Descartes essaie de trouver une causalité à l'intérieur de la forme intentionnelle. Il n'y a pas de causalité dans la forme intentionnelle, puisque vous êtes dans l'ordre d'une forme intentionnelle qui n'est pas la réalité, qui n'est pas quelque chose de substantiel. Ce qui est engendré, c'est une réalité substantielle, une réalité naturelle. L'idée n'est pas une réalité naturelle. Oui. Qui dit naturel, qui dit engendré, dit quelque chose de premier. Qui dit forme intentionnelle, dit toujours quelque chose de second. Or, le second n'est jamais engendré, puisque c'est un accident. Entitativement. Vous avez un petit bouton qui pousse. Ah tiens, il est engendré, ce bouton. Non, il est tout simplement... Il apparaît, c'est tout. Mais il ne faut pas dire qu'il est engendré. Oui. La génération et l'opération naturelle se terminent avec une réalité qui existe. Donc, qui peut être substantielle. Partez toujours cette idée, ce qui est substantiel est premier et fondamental. Toujours cette idée-là. Et ça, c'est le sens le plus commun qu'on a de la substance. Hein. Qui est substantiel, qui est quelque chose qui donne une autonomie. L'idée n'a pas d'autonomie. Quelle est l'autonomie de l'idée? C'est de se référer à la chose qui nous provient. Elle est toute relative à. Ce qui est tout relatif à n'est pas une unité, n'est pas une substance. Ça ne peut pas être un genre. Qui
l'œuvre d'art, oui. Une fois qu'elle est terminée, elle ne dépend plus.
Ah oui, mais l'œuvre d'art est une réalité.
Elle est une substance.
C'est justement la question. Elle démontre qu'elle n'a pas de substance.
Pourtant, elle se tient sans.
Oui, mais parce qu'au niveau de l'être, elle n'est pas première. Cette fameuse chose, Aristote, l'art présuppose la nature. L'art n'est pas premier dans l'ordre de l'être. C'est au niveau métaphysique, hein, vous n'oubliez pas, que l'art est un absolu dans l'ordre propre de la connaissance humaine et dans l'ordre de la connaissance sensible. C'est très vrai. L'œuvre d'art est un certain absolu. Et dans l'ordre de l'air, l'œuvre d'art n'est pas un absolu. Il dépend de la matière dans laquelle il est réalisé. Et la matière est antérieure à l'œuvre d'art. C'est pour ça que l'œuvre d'art, qui normalement ne devrait pas se corrompre, se corrompt. À cause de la matière.
Oui. Quand je réalise une œuvre d'art toute nouvelle, oui. D'où me vient l'idée?
Elle vient d'où? Si vous réalisez une œuvre d'art toute nouvelle, cette œuvre-là, l'idée vient d'où?
Oui, mais est-ce qu'il peut avoir une réalité existante sur laquelle je me suis inspiré pour.
Ah, mais oui, bien, là, c'est tout le problème de l'inspiration. Nous avons essayé d'essayer d'expliquer comment l'inspiration est une source de quelque chose de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que l'idée est innée. Elle provient de l'inspiration. Et ça ne veut pas dire que l'idée est substance. Mais l'idée, il a dit que l'idée était comme la substance sans matière. C'est très fort de voir ça. Que l'idée, c'est comme la substance sans matière. Parce qu'elle est première dans l'œuvre d'art, dans l'œuvre de la réalisation artistique. L'idée est première, elle ne peut pas l'au-delà. Vous cherchez l'origine de l'idée, ça c'est très vrai. Et vous dites que l'idée n'est pas innée et que l'idée, une idée artistique, provient de l'inspiration. Et c'est l'inspiration que vous voulez. Ou bien vous direz que l'idée provient des muses. Hein. La musique vient d'Italie et de là, des muses. Et donc de Dieu. Oui.
Notre saisie du vivant présuppose aussi la matière.
Notre connaissance.
Notre saisie sensible.
Oui.
Et donc, le vivant en soi n'est pas premier au niveau de l'être, il est second par rapport à la matière. On pourrait.
Oui, oui.
Et dans mesure, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut garder malgré tout nos yeux sans la réfléchir à la matière.
Votre âme. Dans votre vie, dans votre être vivant est première. Hein? C'est la source.
de toutes vos opérations vitales.
En vous, y a-t-il une distinction entre votre vie et votre être?
Non.
Donc, votre âme est substance.
On pourrait suivre le même raisonnement que le maître d'âme.
Je vous dirais que ça ne colle pas. Maintenant, vous direz que, voyez, vous direz que la forme du cercle des reins, c'est la même chose, son être et sa forme. Non. La preuve, c'est qu'il y a un cercle des reins, un cercle de marbre. Oui. Dans toute œuvre d'art, l'œuvre d'art comme telle, formellement, est autre chose que ce qu'elle est. Tandis que dans le vivant, votre vie, c'est votre être. Pourquoi ? Parce que votre âme, c'est votre substance. Et que l'âme est quelque chose de radical, c'est pas quelque chose... Votre vie ne vient pas s'ajouter comme un petit toit en disant « j'ai des caves, ça c'est mon être, et là-dessus ma vie c'est l'avenir. » Votre être prend tout ce que vous êtes. C'est pour ça que vous n'avez qu'un seul être et vous n'avez qu'une seule vie. Vous avez des degrés différents dans la vie. Et tous ces degrés différents dans cette vie se ramènent à une unité substantielle.
Oui. Pourquoi est-ce que, au moment de la mort, le corps ne disparaît pas sur la vie?
Demandez ça à Dieu, pourquoi il ne fait pas ça? Il serait plus sain, il n'y aurait personne pour être. C'est pour permettre qu'il y ait un métier particulier. C'est pour ça que Dieu permet ça. Oui. Le chômeur en moi. Comme disait quelqu'un, ce métier-là, ça marche tout le temps. Là, vous voyez. De fait, la séparation de l'âme et du corps. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Vous ne dites pas que la mort, c'est un anéantissement. Non. Séparation de l'âme et du corps. Cette séparation de l'âme et du corps, comme elle est radicale, elle implique un traumatisme dans votre être. Et votre cadavre demeure. Il existe. Comme cadavre.
Quoi ?
Mais vous avez une vie qui est composée, qui n'est pas simple. Et la composition de votre vie, vous en apercevez au moment de votre mort. Vous n'avez pas encore tout à fait d'expérience, mais vous en aurez l'expérience un jour. Que votre vie est composée d'une façon tellement radicale que d'un côté il y a mon âme spirituelle, de l'autre côté mon corps. Et je fais cette petite expérience à l'égard de ceux que j'aime, que je m'aperçois que. L'expérience qu'on a par rapport à quelqu'un, le dernier moment de quelqu'un, il n'est plus là. Et pourtant, extérieurement, visiblement, tout est là. Il n'est plus là. C'est une chose très très mystérieuse au fond. Vous voyez, cette expérience que je n'ai pas directement par moi-même et que je l'ai médiatisée par rapport à quelqu'un que j'aime. Parce que c'est par rapport à tout être humain. Mais spécialement par rapport à quelqu'un qui est passé, c'est la présence. Et vous sentez tout de suite, il y a une absence. Alors, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est. Le corps demeure et le cadavre.
On pourrait presque dire que la vie continue de deux côtés, des côtés de l'âme et des côtés
de l'âme. Oui, mais dégradé d'un côté et
libéré
de l'autre.
Au sens propre.
Oui, il y a deux vivants, si vous voulez. Mais au sens propre, il n'y a qu'un vivant brisé, l'âme continue, et de l'autre côté, c'est l'anarchie. C'est pour ça que ce n'est pas un vivant, c'est l'anarchie. Le cadavre se décompose. Le seul cas où... Alors ça, c'est au point de vue théologique. Non, le cadavre ne s'est pas décomposé, c'est le point de vue de l'incarnation. Du verbe qui a su le cadavre. Alors le cadavre, à ce moment-là, n'a pas une nouvelle forme de vie, mais il existe dans l'unité du verbe. Le cadavre subsiste dans le verbe. Donc il a une unité d'être qui fait qu'il est incorruptible. Autrement, le cadavre est corruptible, et parce qu'il est corruptible, on voit bien qu'il n'a pas une nouvelle forme. Le cadavre n'est pas un nouveau vivant. Oui. Le cadavre, c'est au contraire l'âme qui ayant quitté le corps, ayant s'est brisée, elle s'est séparée du corps, le corps alors connaît une potentialité, une virtualité. C'est la large. Ça part dans tous les sens. C'est au fond ça qu'il montre. C'est, n'oublions pas l'archive d'Aristote. Hein. Il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la substance, le ti esti de la substance. Est-ce que le ti esti de la substance est-il la forme? Ça qui est intéressant, vous voyez, face à Platon. Il faut toujours revenir là-dessus. Hein. L'interrogation qui mène cette étude, parce qu'au bout d'un certain temps, l'interrogation est lointaine. Il faut la remettre toujours en acte. Bon, le ti esti l'ousia, qu'est-ce que c'est que l'ousia? Est-ce que l'ousia, c'est la forme? Platon dit que le ti esti l'ousia, c'est la forme. Et Aristote montre que le ti esti l'ousia n'est pas la forme. Il l'a montré logikos. Donc il l'a montré d'une façon intelligible. Et pour ça, il a inventé le toti eneinai. Il a montré que le toti eneinai n'est pas la substance. Pourquoi? Parce que le toti eneinai comme une telle, la crudité, le toti eneinai comme une telle, se retrouve dans toutes les modalités de l'être. Et donc, il ne peut pas être la substance, parce que la substance ne se retrouve pas dans toutes les modalités de l'être. Que le toti eneinai ne regarde que l'intelligibilité, alors que la substance regarde le fondement de l'être, ce qui est premier dans l'ordre de l'être. L'intelligibilité n'est pas adéquate à l'être. Donc ça, c'est logikos. C'est la méthode logikos. Maintenant, il y a physikos, c'est-à-dire d'une manière physique. D'une manière physique, il fait appel tout simplement à la génération. Qu'est-ce qui est premier dans la génération? Est-ce que je peux dire que la forme est première dans la génération, dans la génésis? Est-ce que la forme est première? Alors, je regarde la génération dans la réalisation artistique. Dans la réalisation artistique, qu'est-ce qui est premier? L'eidos. C'est l'eidos. Si je n'ai pas d'idée, je réalise en manœuvre. Quand vous balayez, vous n'avez pas d'idée, je présume. Alors, vous balayez par obéissance, donc en manœuvre. Quand vous travaillez à réparer une voiture, si vous n'avez pas d'idée, vous tâtonnez. Et vous perdez beaucoup de temps. Tandis que si vous êtes un peu intelligent et que vous avez l'oreille faite à la mécanique, vous écoutez, dites, tiens, c'est peut-être ça. Mais petite idée qui pousse à ce moment-là. Elle est quelquefois fausse. Hein? Vous vous corrigez, vous n'en parlez pas. Mais autrement, vous dites, ça doit être ça. Vous tâtez le pouls du malade, que voulez-vous? Et tâtez le pouls du malade, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, vous avez une idée qui pousse. À ce moment-là, votre recherche est ordonnée. Si, au contraire, vous n'avez aucune idée, j'entends le moteur, je suis complètement béotien dans ce domaine, non? Oui, ça va très bien. Vous n'apercevez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Quelqu'un qui a l'oreille faite à ça, dit, ah, mais non, vous ne voyez pas. Ah oui, si vous le dites, c'est peut-être ça. Mais au fond, vous travaillez en manœuvre. En manœuvre, vous tâtez. Travailler en manœuvre, c'est de... Ça, on m'a dit que ça n'allait pas. Bon, je vais dévisser tout le moteur. Puis je vais voir si je trouve une puce. C'est ça. Et je dévisse tout le moteur, je ne trouve rien. Je dévisse tout le moteur, je ne trouvera jamais rien. Puis une fois que je vais le remonter, je ne saurai pas. Vous travaillez en manœuvre. Tandis que dès que vous avez une idée, ah, vous savez, vous devenez intelligent dans votre travail. L'idée met dans le travail une orientation et une intelligence. Une espèce de légèreté. C'est ça qui est très curieux. Il faut faire l'expérience, hein, du travail fait par pure obéissance. Hein. Ça m'assomme, je fais ça par pure obéissance. Hein. Et donc je suis manœuvre. Je me dis, oh, tu fais ça avec un peu plus d'intelligence. C'est pas parce que vous le faites avec obéissance que vous devenez bête. Non, mettez au contraire toute votre intelligence à ce que vous faites. Et c'est encore obéir. Alors à ce moment-là, vous obéissez non pas en manœuvre, mais vous obéissez en ami. C'est tout à fait différent. Et ça, c'est très bien. Hein. C'est très très bien les deux choses. On me demande de faire un séminaire. Non, ça ne me goûte pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Alors, on dit, bah, prenez tel bouquin, puis faites un résumé. Très bien. C'est un résumé. Manœuvre. Manœuvre dans l'ordre de l'intelligence. Il y a des séminaires, ils s'en foutent d'une manœuvre. Et puis il y a des séminaires où on voit qu'il y a une petite idée qui a germé. Petite idée. On a compris quelque chose et puis on a organisé en fonction de ça. Il y a une petite idée. Ça met du temps quelquefois, parce que quand vous attaquez un auteur que vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez pas d'idée au point de départ. Mais en lui disant, tiens, quelque chose de drôle. C'est ce que nous faisons avec Aristote, nous essayons de comprendre un peu ce qui le conduit à nous dire ces choses curieuses, ces analyses sur lesquelles il revient tout le temps. C'est pour essayer de comprendre que dans l'ordre de l'être, ce qui est premier dans la génésis, dans le devenir, dans la génération, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la matière. Tandis que dans l'ordre artistique, ce qui est premier, c'est l'idée. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment, si je conçois d'une manière artistique le monde, l'eidos sera la substance. Et nous aurons Platon. Platon, c'est ça. Et en fond, c'est ça qu'Aristote a montré. Il avait déjà un peu montré au chapitre 7, mais il y revient, ce qui prouve que pour lui, c'est une chose très importante de bien saisir ça. Y a-t-il donc quelques sphères au-delà de celles qui sont des ceci, ou une maison au-delà des briques? Il faut le faire, cette interrogation. Une maison qui n'a pas de matière, une sphère qui n'a pas de matière, pour la penser. Mais s'il en était ainsi, il n'y aurait pas d'impossibilité que cette idée engendra un ceci, elle qui signifie une chose de telle qualité et n'est pas elle-même un ceci déterminé, mais réalise et fait naître à partir d'un ceci une chose de telle qualité qui, une fois née, est un ceci de telle qualité, et le tout un ceci déterminé, Callias ou Socrate, et comme cette sphère d'airain déterminé, tandis que l'homme et l'animal sont comme une sphère d'airain prise d'une façon absolue. Il est alors manifeste que la cause des idées, comme certains en parlent d'habitude à propos des idées, a supposé qu'il est des réalités au-delà de celles qui sont individuelles, ne sert à rien, du moins pour les générations et les substances. Ça, c'est contre Platon. Oui. Parce qu'il y a l'idée de cheval, il y a l'idée de cheveux, il y a l'idée de la boue. Vous vous souvenez, dans le Parménide, on va jusqu'au bout pour la question des idées, pour montrer qu'on aboutit à une absurdité. Quelle est l'idée de la boue? Il faut avoir une idée de tout. Alors, y a-t-il une boue sans matière? Une idée sans boue? L'idée de boue serait sans boue. Et ce serait l'idée de boue. C'est ça qui montre. Vous ne pouvez pas avoir l'idée. C'est contre Platon, ça. Avoir l'idée d'un cheval sans le corps du cheval. L'idée d'un homme sans le corps. l'idée de l'araignée sans le corps de l'araignée. C'est impossible. Je ne peux pas. Parce que toujours l'idée de l'araignée implique un composé. Alors, c'est ça qu'il dit, à supposer qu'il y ait des réalités au-delà de celles qui sont individuelles, ne sert à rien, du moins pour les générations du substance. Et les idées, du moins pour ces raisons, ne sauraient être des substances elles-mêmes. Dans l'ordre artistique, l'idée peut être substance. Mais dans l'ordre réel, l'idée n'est pas substance. Pourquoi ? Parce que c'est le composé qui existe. C'est le taux d'éthi qui existe. C'est le composé de la forme et de la matière. Et seul le composé de la forme et de la matière existe. Donc, il ne peut pas y avoir une idée uniquement du côté de la forme. Dans certains cas, il est manifeste aussi que l'engendrant est de même espèce que l'engendré, sans qu'il soit néanmoins identique et un selon le nombre, mais selon la forme. C'est le cas, par exemple, des choses naturelles. En effet, un homme engendre un homme, à moins qu'il y ait engendrement paranaturel. Par exemple, un cheval engendrant un mulet. Ça, c'est toujours l'exemple classique des anciens. C'est le mixte, ça veut bien. C'est pas tout à fait particulier. On est en présence d'un être qui ne pourra pas se reproduire. Bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement naturel, paranaturel, à moins qu'il y ait engendrement paranaturel, vous voyez, c'est la paraliturgie, hein, c'est paranaturel. Par exemple, un cheval engendrant un mulet, et même dans ce cas-là, c'est identique, car ce qui peut être commun au cheval et au mulet n'a pas de nom. Le genre le plus proche, ce serait peut-être tous les deux quelque chose tenant du mulet. Vous essayez de voir l'œcuménisme entre les deux, le cheval et le mulet. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun ? Poussez le plus possible. C'est du côté du mulet. Et on comprendrait bien que c'est du côté du mulet, parce que c'est le mulet qui est le fruit. Donc c'est plutôt du côté du mulet. C'est assez astucieux. Hein ? Vous pouvez appliquer des principes comme ça. Quand vous voulez voir des choses qui sont diverses, c'est voir qu'est-ce qu'il y a de commun. Alors vous essayez de voir le point de vue commun. Et vous voyez, c'est très important parce qu'il y a une infécondité là-dedans, hein, dans les paranaturels. Ce n'est plus naturel. En sorte que manifestement, il ne faut nullement supposer une forme qu'un paradigme. En effet, ce serait principalement chez ces êtres-là qu'on en chercherait, car ces substances sont principalement substances. Et l'engendrant suffit pour produire et être cause de la forme dans la matière. Dès lors, le tout engendré est une forme de telle qualité dans des chairs et dans et des os bien déterminés qu'Alias et Socrate. Il est différent de l'engendrant par la matière. En effet, elle est autre. Mais il lui est identique par la forme. En effet, la forme est indivisible. Donc on peut dire que tout ce chapitre 8... On va trop insister. Tout chapitre 8, vous voyez, c'est pour montrer, c'est contre Platon. L'idée du chapitre 8, c'est contre Platon. C'est de montrer que cette vision de Platon, qui consiste à chercher une forme idéale pour tout individu, vous prenez Socrate. L'homme en soi. L'homme en soi, pour Platon, est ousia. L'homme en soi, pour Platon, est ousia. Donc, elle est première dans l'ordre de l'être. Bien, Aristote dit non. Ça ne signifie rien de dire ça. Parce que l'homme en soi ne peut pas être cause de Socrate. L'homme en soi, il n'applique pas de matière. C'est pas un individu. Seul l'individu existe. L'homme en soi, il n'est que pensée. Donc, c'est une forme intelligente, intentionnelle. C'est de l'ordre de l'intentionnel. Ce qui est intentionnel n'est jamais premier. Donc l'homme en soi n'est pas premier, il ne peut pas être substance. Oui. L'homme en soi est une eidos. Oui, ça peut être une eidos, ça peut être une idée. Très bien. Mais l'idée est de l'ordre intentionnel, c'est une forme intentionnelle, c'est pas premier. Vous voyez tout le raisonnement qu'il prend, c'est assez simple, une fois qu'on a bien saisi justement son intention profonde de montrer que la forme en soi n'est pas un soi. Pourquoi ? Parce qu'elle est une forme en soi. Une forme à l'état pur. Or, une forme à l'état pur ne peut pas, une forme à l'état pur, quand il s'agit d'une forme d'une réalité individuelle, ne peut pas subsister en elle-même. Elle n'existe qu'intentionnellement. Donc elle n'est pas première dans l'ordre de l'être. Chapitre 9. On peut se demander pourquoi parmi les choses, les unes sont engendrées par l'art et par la spontanéité. Apo automatu. Par exemple, la santé, et non pas les autres. Par exemple, la maison. La cause est que, des unes, la matière, principe de génération dans la production, est aussi quelque chose des réalités qui proviennent de l'art, dans lequel se trouve une partie de la réalité produite. Une telle matière est capable d'être mue par elle-même, tandis que la matière des autres réalités, comme celle de la maison, n'a pas cette capacité. Et de cette matière, l'une est capable d'être ainsi, l'autre incapable. Car il y a beaucoup de choses qui, tout en étant capables de se mouvoir elles-mêmes, ne le peuvent pas d'un mouvement particulier. Par exemple, celui de danser. Ainsi donc, les choses qui ont une matière de cette sorte-là, par exemple les pierres, sont incapables de se mouvoir d'un mouvement particulier si ce n'est par l'intervention d'autre chose, encore que capables de leur mouvement naturel. Et c'est la même chose pour le feu. C'est pour cela que parmi les choses, les unes n'existeront pas sans celui qui possède l'art, tandis que les autres le pourront, car elles seront mises en mouvement par ces choses qui ne possèdent pas l'art, mais qui ont elles-mêmes la capacité d'être mues, soit par d'autres ne possédant pas l'art, soit par suite d'une de leurs parties. Et la distinction entre la réalité qui se meut comme vivant et la réalité qui est mue par l'autre. Une réalité qui est mue par l'art, c'est toujours mue par un autre. Et l'art est toujours extrinsèque. Tandis que dans le vivant, le principe du moi est immanent. Et c'est pour essayer de mieux comprendre la différence qui existe entre la génération et la production. La différence entre les deux.
Le feu sera entre les deux.
Oui, alors le feu, venez. On pense à Héraclite, hein. Le feu, tout dépend. Le feu est un mouvement naturel. Vous voyez ? Le feu peut être utilisé par l'art. Alors, à ce moment-là, il n'a plus la même qualité au point de vue de sa production. C'est autre chose. Il est utilisé. Et c'est pour ça que c'est une distinction formelle, c'est pas une distinction. C'est une distinction qui, dans la réalité, peut très bien être très, très, très difficile à saisir. Parce qu'au fond, le mouvement naturel et le mouvement artistique sont quelquefois très très liés. Mais il y a quand même une distinction entre les deux. Mais c'est comme l'œuvre d'âme, c'est M. Test de Valéry, essayer de distinguer une réalité qui dépend d'une activité artistique ou qui dépend uniquement de la nature.
Est-ce qu'on peut dire que ces réalités-là, celles qui ont ce mouvement naturel, mais qui n'est pas un mouvement du vivant, sont la matière privilégiée de l'art? Est-ce qu'on peut dire que ces réalités qui ont un mouvement naturel mais qui ne se meuvent pas elles-mêmes,
oui,
sont la matière privilégiée?
Tout à fait, sûrement. C'est là où l'art est le plus fort. Plus votre matière est un vivant, plus il faut être attention à l'art. Voyez. Tandis que plus la matière est en puissance, plus l'art pourra se donner à cœur jour. Et plus la matière sera transformée par l'art. Donc c'est là où l'art sera parfaitement lui-même. Tandis que dans la matière vivante, il y a toujours une coopération. Il ne faut pas aller contre le vivant. Et ça explique beaucoup de choses, vous savez ça. L'industrie pharmaceutique. Hein. Vous savez bien que quand on fait les expériences sur un animal, et puis qu'on croit que ça va finir, on s'aperçoit que ça ne va pas pour l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme est un vivant supérieur à l'animal. Et que le corps du vivant est autre, le corps du vivant homme est autre chose que le corps de l'animal. Alors vous voyez bien que certains aspects qui pourront se réaliser pour le corps de l'animal ne pourront pas. Alors allez un peu plus loin, prenez un non-vivant ou un vivant de matière végétative. Plus le vivant est vivant, plus il faut que l'art respecte la matière. Donc il faut que le vivant, il faut que l'art soit moins art et coopère davantage. Ça explique des quantités de choses. Hein. Mais des artistes qui gouvernent. C'est très, très dangereux. Parce que des artistes qui gouvernent voudront que les sujets qu'ils gouvernent soient conformes à l'idée qu'ils ont faite. Ils se sont fait une idée. C'est Platon qui réalise la République. Alors, selon Platon, la République, il faut que les femmes soient à tout le monde, les enfants soient à tout le monde. Mais ça, c'est tout à fait l'artiste. Et on agit sur une matière qui n'est plus vivante. L'artiste qui est habitué à agir sur une matière non vivante, s'il passe tout de suite à un art qui coopère avec le vivant et qui coopère avec l'homme, le gouvernement, gouverner, c'est coopérer avec les vivants. Il voudra que tous les sujets soient des petits nés pour Hitler. Dans Hitler, c'était ça. Tous les enfants qui naissaient étaient à lui. Oui, platonisme. On mettait un enfant pour Hitler. On a tous rencontré des gens comme ça, c'est affolant. J'en ai rencontré. Personne qui attendait un enfant, c'est pour Hitler. Et pour vous ? Ah non, non, c'est pour Hitler. La nature disparaît et l'art l'emporte. Vous faites des choses monstrueuses. Et dans tous les domaines, on verrait ça. Vraiment.
Au niveau médical, c'est très intéressant.
Oui.
C'est pas à ce moment-là, la pharmacologie ne doit pas être calquée sur la chimie.
Non, exactement. Exactement.
C'est le renversement qu'il y a eu avec Claude Bernard, oui. Parce que Hippocrate.
Oui. C'est très, très... C'est capital, enfin une fois qu'on a compris, c'est pour ça qu'Aristote insiste tellement à la différence entre le mouvement naturel et le mouvement artistique. Et que le mouvement artistique est nécessairement dépendant du mouvement naturel. Vous savez, c'est la fameuse phrase, hein, la fameuse phrase d'Aristote qui a été... C'est intéressant, du reste, quelqu'un qui s'intéresse à la chose, ce sera intéressant d'en faire la topie historique. Je crois que ça a été interprété de multiples. L'art imite la nature. L'art imite la nature, dans la perspective d'Aristote, c'est fait dans la lumière du pythagorisme. Donc on ne comprend pas du tout l'imitation, comme nous l'entendons, c'est pas ça du tout. L'imitation, ça veut dire que c'est le principe de subsidiarité. Celui qui est inférieur est nécessairement dépendant du supérieur. Or, l'art vient après la nature, et donc nécessairement l'art doit entrer dans le rythme de la nature. Et si l'art n'est pas dans le rythme de la nature, l'art va nécessairement perdre ce pourquoi il est fait. Il imite la nature et l'achève. Mais pour pouvoir l'achever, il faut l'imiter. Alors, pour Aristote, on voit très bien. Que devient ce principe dans la philosophie hégélienne ? Dans la philosophie hégélienne, c'est la nature qui imite l'art. Hegel le dit textuellement dans l'esthétique. Et il reprend le principe d'Aristote, c'est ça qui est très intéressant. Il reprend le principe d'Aristote en l'interprétant. Oui. Alors il dira par exemple, pourquoi j'aime le chant du rossignol ? C'est parce que j'ai écouté avant une mélodie particulière. Et je retrouve dans le chant du rossignol mon idéa artistique. Alors, Saint François d'Assise, il ne disait pas ça tout à fait. Vous voyez les différences entre les deux. Et c'est ce principe-là qui serait très intéressant à étudier. J'ai essayé de lancer un étudiant à Fribourg là-dessus, parce que ça m'aurait beaucoup intéressé de voir ça. Je vois à certains moments, mais ce serait intéressant de le faire d'une façon exhaustive. L'art imite la nature et la complète. C'est dans la physique qu'Aristote dit ça. Et Aristote montre ce que c'est que l'imitation dans la poésie, en montrant que l'imitation dont il parle là, c'est l'imitation telle que les pythagoriciens l'emploient. C'est-à-dire qu'une réalité naturelle inférieure imite la réalité supérieure. Elle est dans sa dépendance. Et donc, elle entre dans son rythme. Le rythme de l'art, de l'activité artistique, du côté de sa causalité, est nécessairement en harmonie avec la nature. En harmonie, ça veut dire copier. Imiter n'est pas du tout copier. Imiter, c'est entrer dans le rythme. Oui, c'est le passage de la causalité efficiente à la causalité formelle. En réalité, imiter, c'est du côté de la causalité efficiente. On est dépendant, on est dans le rythme de l'autre. Et on en a fait la causalité.